Bonjour, bonjour, ça fonctionne. Merci d'être là. Nous allons passer une heure avec Nathalie Besson à parler de physique des particules. Nathalie Besson, vous êtes chercheuse au service de physique des particules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et dit-on aux énergies alternatives, voilà. À Saclay, en région parisienne. Vous travaillez sur les données que diffuse l'appareil ATLAS au sein du LHC. Le LHC, c'est le grand collisionneur à protons qui se trouve au CERN, l'organisation européenne des particules, à Genève. Votre domaine de prédilection, c'est le modèle standard des physiques des particules, plus précisément l'étude des bosons W et Z. Alors, qu'est-ce que c'est que les bosons W et Z ? Qu'est-ce que c'est que le modèle standard des particules ?
Alors, ah oui, bah on m'entend, c'est parfait. Donc, déjà, le but de tout ça, c'est de comprendre comment fonctionne l'univers, pas pourquoi, comment. Il fonctionne au niveau des briques élémentaires qui constituent l'univers. Donc pour nous, c'est les particules élémentaires. Et donc le modèle standard, c'est quelque chose qui s'est construit sur des dizaines d'années, d'aller-retour, expérience, théorie, les uns enrichissant les autres, d'accord, et qui décrit le contenu en matière de l'univers. Et évidemment, quand j'ai dit ça, j'ai fait qu'une description, mais je ne dis pas comment il marche, comment ça fonctionne. Donc il faut aussi que je dise comment ces particules, le contenu en matière, interagissent, comment elles interagissent les unes avec les autres. Donc le modèle standard tel qu'il est en ce moment, c'est quelque chose qui est évolutif, mais on pense que là, ce modèle-là, en tout cas, on est arrivé au bout il n'y a pas très longtemps. Il contient donc les particules de matière. Il y en a que tout le monde connaît ici, par exemple l'électron, c'est une particule élémentaire. Mais il y a aussi d'autres particules qu'on appelle les quarks, qui constituent par exemple neutrons et protons, qui eux ne sont pas élémentaires, puisqu'ils sont constitués de quarks. Puis dans le modèle, donc, il y a des quarks, des leptons chargés, donc électrons qui a des cousins plus lourds, muons et tauons. Et puis les neutrinos, qui sont très élusifs, qui sont très légers, et qui sont les copains neutres de l'électron, muon et tauon. Donc il y a le neutrino électronique, le neutrino muonique, le neutrino tauique. Ça, c'est côté matière, donc 6 quarks et 6 leptons. Et bien sûr, il faut que ces machins-là interagissent.
Donc ça, ça constitue la matière, c'est-à-dire que la matière, je pense que tout le monde sait que c'est constitué d'atomes, et les atomes sont constitués d'électrons et de noyaux, eux-mêmes constitués de protons et neutrons.
Voilà.
Et vous venez de nous dire eux-mêmes constitués de quarks. Et ça s'arrête là ?
Pour l'instant, je veux dire, la vision de la physique des particules, elle est vachement évolutive, parce que par exemple, pour Démocrite, on était à l'atome, et l'atome n'était pas composite, c'était une bille, un truc avec des propriétés physiques, genre, je sais pas, lourd, léger, mou, dur, mouillé, j'en sais rien, enfin voilà, tout pour expliquer la diversité, ce qu'on voyait dans l'univers.
Atome, donc, ça veut dire insécable.
Ouais, exactement, donc après, on est passé à un truc avec un noyau et des électrons, d'abord dedans, puis il y avait un modèle qu'on appelait le plum pudding, avec de la matière chargée plus et des électrons qui faisaient les raisins secs dans le plum pudding chargé moins. Puis après, on s'est aperçu que non, il y avait un noyau très dense, très petit, puis des électrons qui gravitaient autour. Le noyau était considéré comme élémentaire. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il était composé de protons et de neutrons. Et puis finalement, de quarks. Et bon. Mais alors, les quarks, justement, tiens, ça va nous amener aux bosons. Ces choses-là, elles interagissent entre elles. La meilleure preuve, c'est que les électrons gravitent autour des noyaux. Ils ne se cassent pas la figure dessus et puis ils ne s'échappent pas. Que les quarks ou les protons et les neutrons tiennent ensemble dans le noyau. Si vous réfléchissez bien, on sait que les charges de même charge, les machins chargés de même charge se repoussent, par exemple. Dans un noyau, on a des neutres, donc ça ne compte pas pour la force électromagnétique. Puis on a des protons qui sont tous chargés plus. Bon, bah, un truc comme ça, ça devrait exploser sous la répulsion coulombienne, quoi, juste parce qu'on a plein de charges de plus dans un tout petit volume. Si ça n'explose pas, c'est parce qu'il y a une force qui s'appelle la force nucléaire forte qui les tient ensemble. Et cette force, en fait, elle est médiée par un boson vecteur de la force forte, et c'est le gluon. Alors, on a des bosons pour chacune des quatre interactions. Allez, je vais dire trois des quatre interactions fondamentales. D'accord ? On a un boson, donc le gluon, pour la force forte. On a un boson pour l'interaction électromagnétique. Alors celui-là, il y en a partout, youpi, c'est les photons. Et puis, on a des bosons pour l'interaction faible. Alors l'interaction faible, elle est reliée à tout ce qui est radioactif, donc par exemple, fonctionnement du soleil, etc. Et ça, c'est les bosons W et Z, mes copains. Et puis après, il y a une quatrième interaction, c'est l'interaction gravitationnelle, qu'on n'a toujours pas été fichu théoriquement de coller dans le modèle, parce qu'on n'arrive pas à la quantifier. Donc si jamais le jour où on arrive à la quantifier, il y aura un boson aussi, responsable de l'interaction gravitationnelle. On l'appellera le graviton, par logique sémantique, on va dire. Mais bon, celui-là, pour l'instant, il n'existe pas. Donc il y a au moins trois des interactions. Sur les quatre interactions fondamentales, il y en a trois qui sont dans le modèle et qui sont médiées par des bosons vecteurs. Et alors c'est là qu'on arrive sur le boson dont je n'ai pas parlé. Ah ah, celui qu'on a découvert en 2012. Et si j'en ai pas parlé, c'est parce qu'il a un rôle complètement différent. C'est pas un boson vecteur, il n'est pas médiateur de force. C'est un boson scalaire, ça veut dire qu'il a des propriétés mathématiques complètement différentes. Et c'est surtout la manifestation d'un champ, et c'est en interagissant dans ce champ que les particules acquièrent une masse.
Donc ça, c'est une... Vous voulez parler du boson de Higgs ?
Yes.
Que tout le monde a en tête, parce qu'effectivement, on attendait sa découverte, enfin sa détection en tout cas, depuis longtemps, oui. Depuis qu'il avait été prévu par des théoriciens, dont Higgs. Et puis, il a été découvert en 2012 dans cet accélérateur de particules dont on va parler, le LHC oui. au CERN.
Oui, tout à fait.
Vous avez vous-même participé à ces recherches du boson de Higgs ?
Oui, alors, bon, donc je suis très honorée parce que moi, je me sens ayant reçu un petit bout de prix Nobel en 2013. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les théoriciens, effectivement, et puis sur chacune des deux manips qui ont observé le boson de Higgs, donc ATLAS, celle dans laquelle je travaille, et puis CMS, la manip concurrente, bon, on doit être à peu près 5-6 000 à travailler en ce moment dessus. On va dire non, un peu plus, parce qu'il y a presque 4000 physiciens dans ATLAS, et puis il y en a presque 3000 dans CMS. Et puis en plus, si on intègre sur le temps de tous les gens qui ont travaillé, donc mettons qu'on soit 10 000 à avoir bossé là-dessus, donc j'ai un 10 millième de prix Nobel, moi je trouve ça cool. Pas mal.
C'est déjà beaucoup. C'est vrai que ce sont des équipes pléthoriques dès qu'on étudie les particules, et en particulier dans ces énormes machines. Le LHC, c'est la plus grosse machine au monde, on pourrait dire.
Oui, alors j'ai bien réfléchi. Vous m'aviez posé la question. En taille, oui. En complexité, je vais dire oui, puis je vais attendre que des gens qui bossent sur des machins plus complexes m'arrachent la tête, mais a priori, personne ne bouge, donc en complexité, oui. Il y a plein de choses qui en font la machine la plus quelque chose, oui. La plus froide, mais à la fois aussi la plus chaude, la plus dévoreuse d'énergie, enfin pas tout à fait. Il y a plein de la plus dans le LHC, ouais. C'est la machine de superlatifs, c'est sûr. Alors, vous voulez que je la décrive pour vous dire la plus
oui,
quoi ?
Oui, oui, oui. Et puis, nous parler un petit peu de ce détecteur ATLAS, parce que, alors, ATLAS, quand on connaît un petit peu la culture grecque, c'est l'homme qui soutient la voûte céleste. En quoi c'est aussi énorme et fort que le vrai ATLAS, que l'ATLAS de la mythologie ?
Alors, c'est un gros boulot dans les manips de trouver des acronymes intelligents. Mais là, en l'occurrence, ça colle bien parce que ATLAS, ça veut dire E-toroïdal apparatus, LHC apparatus, pardon, j'ai oublié le L. Bon, en gros, quoi, c'est un détecteur. Il se trouve qu'il est caractérisé par un grand champ toroïdal. Je reviendrai peut-être dessus. Donc voilà, ça colle bien, il y a les bonnes lettres. Mais il s'appelle ATLAS essentiellement parce qu'il est gigantesque. Alors, si on veut faire ça d'un point de vue monolithique, vous imaginez un immeuble de 7 à 10 étages, ça dépend de la taille de vos étages, c'est haut de plafond chez vous ou pas. Voilà, maintenant, vous le couchez sur le flanc, vous le collez dans une caverne à 100 mètres sous terre. Il est tellement géant qu'il remplit quasiment toute sa caverne. Et voilà, vous avez ATLAS. Donc c'est un monstre, ça fait 45 mètres de long, ça fait 25 mètres de diamètre. Il y a 90 millions de canaux d'électronique là-dedans pour lire les informations qui nous viennent des collisions de protons. Donc c'est juste un monstre, ouais.
Alors, je ne sais pas si vous voyez les images sur les écrans. On a quelques images du LHC,
il y a pas ATLAS,
dont ATLAS qui va apparaître à un moment. ATLAS en construction. Il faudra, quand l'image apparaîtra, regarder attentivement. Vous verrez un petit bonhomme. Ça vous donne la taille de l'appareil.
Donc là, il est représenté dans sa caverne sous terre. Le détecteur, c'est le machin bleu. La caverne, c'est donc la chose en béton blanc. On voit le tunnel du LHC qui est représenté aussi. Voilà. Donc ça, c'est ATLAS vu de face. On ne le prend plus maintenant parce que c'était très bref. On ne le prend plus en photo maintenant. En fait, on essaye, on fait des fichailles, on se débrouille comme on peut. Mais on a tellement peu de recul dans la caverne d'ATLAS que faire une photo parce qu'il est fermé maintenant et il y a encore tout un tas de couches de détecteurs qui se raccrochent, qui se raboutent là-dessus. Donc on n'arrive plus tellement à le prendre en photo. Là, c'est en 2006. La chose que vous voyez au fond, c'est les calorimètres. Elles vont être avancées au centre du détecteur. Et en fait, les grandes structures, les 8 grandes structures que vous voyez autour, c'est ce qui fait d'ATLAS sa grande taille. Parce que c'est des bobines qui permettent de créer un champ toroïdal, donc avec une configuration géométrique un peu particulière. Dans l'air autour du cœur du détecteur, d'accord ? Et c'est ce champ toroïdal qui lui donne sa grande taille à ATLAS.
Alors, Atlas est situé dans le LHC. Déjà, le LHC, c'est quelque chose d'énorme.
Alors, je vais faire ma prof. Oui. Mais non, pas dans le LHC, voyons. On va dire autour du LHC ou sur le LHC. Alors, je le refais. Donc, le LHC, c'est des tubes à vide.
Oui.
Deux. Dans lesquels on fait circuler des protons à presque la vitesse de la lumière. Beaucoup, 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 beaucoup de paquets de beaucoup, beaucoup, beaucoup de protons. Et en 8 points de cet anneau, on peut faire collisionner les protons qui arrivent donc face-face. Et ces protons qui ont déjà beaucoup d'énergie, en se collisionnant avec leurs potes protons qui ont beaucoup d'énergie en face, ça fait beaucoup d'énergie. À cet endroit-là, on chauffe le vide, en quelque sorte, et on crée de nouvelles particules qu'on va pouvoir étudier. Donc c'est en ces points-là, autour de ces points-là, qu'on appelle les points de collision, les points d'interaction, qu'on installe les détecteurs, mais c'est vraiment autour des tuyaux du LHC, de façon la plus hermétique possible, de façon à entourer le point de collision pour pouvoir récupérer toutes les particules qui sont créées pendant ces collisions. Donc on ne peut pas dire dans le LHC, c'est plutôt autour du LHC. Donc le LHC, par contre, on n'a pas parlé, je disais la machine la plus, donc c'est 27 km de circonférence, hein, c'est pas... on avait calculé, on a le droit de se balader à vélo ou dans des voiturettes de golf. Donc admettons qu'il fasse du 50 km/h, le monsieur, il faut quand même 32 minutes pour faire le tour de l'anneau. Les protons, eux, ils sont à presque la vitesse de la lumière. Et alors, il leur faut, je ne vais pas le dire dans ce sens-là, je vais dire qu'ils font 1 milliard de km/h. Donc voilà, par rapport au. Ils font 11 245 tours, pendant que le malheureux physicien en trottinette ou je ne sais pas quoi en fait un.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut. Comment on fait pour accélérer à ce point les protons? Il y a une technologie incroyablement de pointe dans cet accélérateur.
Alors oui, mais pas pour l'accélération. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que accélérer des protons, c'est pas très compliqué. Il suffit. Alors, comme on peut pas fabriquer des cavités accélératrices qui donnent énormément d'énergie d'un coup, bah on est rusé, on les fait passer plusieurs fois dans la même cavité accélératrice qui, au fur et à mesure, va leur donner un petit peu d'énergie. Donc un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. En 20 minutes, on arrive à prendre des protons qui sont à 450 gigaélectronvolts, qui sont fournis par le SPS, l'accélérateur qui est en amont du LHC. Et en 20 minutes, pouf, ils arrivent à 6 TeV, 7 TeV, ça dépend à téraélectronvolt, ça dépend à quelle période des années écoulées on se situe. Donc c'est pas accélérer les protons le problème. Maintenant, je vous ai dit, je les fais passer plein de fois dans les mêmes cavités. Donc pour ça, évidemment, qu'à un moment, il faut que je leur fasse faire demi-tour. Donc en fait, ils sont dans un anneau, donc l'anneau de 27 km de circonférence, donc il faut que je les fasse tourner. Pour les faire tourner, il faut que je courbe leur trajectoire. C'est des particules chargées, je vais utiliser des champs magnétiques. Plus la particule à courber a d'énergie, plus il faut mettre de champs magnétiques pour courber sa trajectoire. Plus c'est compliqué de courber sa trajectoire. Le gros défi technologique du LHC, il est là. Il est dans les aimants de courbure qui constituent donc 27 km. Il y a 18 km d'aimants de courbure sur les 27, répartis un peu partout. Et c'était là le défi technologique. Alors comment on fait? Donc pour faire un champ magnétique, c'est comme quand on faisait à l'école. On fait un bobinage d'un conducteur. Hop, on branche, on met une différence de potentiel. On fait circuler du courant dans cette bobine. Et ça crée un champ magnétique. Mm-hmm. Alors ça, c'est super. Mais quand on veut créer un grand champ magnétique, il faut mettre un grand courant, donc beaucoup d'intensité. Et n'importe quel conducteur normal font. Alors déjà, ils commencent par chauffer, ce qui est un peu idiot, parce que ça veut dire que j'évacue de l'énergie dans l'air, et j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, j'ai envie l'énergie de la communiquer à mes protons, d'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est... Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quelque chose qui s'appelle un matériau supraconducteur, qui, à froid, sous une dernière certaine température, qu'on appelle la température critique, n'est plus résistif. Ça veut dire que je peux faire passer dedans autant de courant que je veux, il n'y a aucune déperdition par chaleur. Alors ça, c'est génial. Le problème des supra, c'est que la plupart de ceux qu'on connaît sont à très, très basse température. Et le niobium titane, qui est le supraconducteur utilisé donc pour les dipôles, les aimants du LHC, c'est un supra qui est supra sous 10 Kelvin, donc à 10 Kelvin du zéro absolu.
Donc c'est Kelvin, moins de 100 et quelques degrés Celsius.
163, un truc comme ça, moins 262 degrés Celsius. Sauf que nous, on veut mettre... Que les champs magnétiques atteints soient très élevés, le plus élevé possible. Donc nous, on les utilise à 1,9 Kelvin, donc à moins 273 à la louche degrés Celsius, à presque 2 degrés du zéro absolu, 1,9 je crois qu'on est. Donc grâce à ces matériaux-là, on peut donc faire circuler beaucoup de courant, on peut donc atteindre de très grands champs magnétiques, on peut donc courber la trajectoire de protons de très haute énergie. Donc la difficulté, elle était là. C'est pas tant leur communiquer beaucoup d'énergie que d'ensuite les maîtriser et les faire tourner alors qu'ils ont ces énergies-là.
Et pour continuer dans la veine des superlatifs, les températures atteintes sont plus froides que dans l'espace.
Bah, 1,9. Alors, il y a.
C'est combien dans l'espace ?
Alors, le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la moyenne du fond de l'espace, c'est 2,7 Kelvin. D'accord ? Et nous, on est à 1,9. Alors, j'adore frimer en disant, OK, le LHC, c'est une quantité énorme de matériel. Je crois que c'est 40 000 tonnes de matériel refroidi à plus froid que l'univers. Bon, mais ce n'est pas les températures les plus basses de l'univers. Donc, faut que de temps en temps, j'arrête de frimer. C'est les températures les plus basses de l'univers sur ce volume-là. Ça, enfin, dans une machine, en tout cas.
Et les énergies, vous parlez de téraélectronvolts. Qu'est-ce que ça représente, quoi ? C'est quoi, du point de vue de l'univers, ces énergies-là ?
Alors, déjà, l'électronvolt, hein, pour les physiciens là-dedans, donc c'est l'énergie qu'a un électron soumis à une différence de potentiel d'un volt. Bon. C'est un truc qui nous a paru très intelligent il y a très longtemps. En fait, juste pour revenir sur les changements d'unité, nous, on est des êtres humains, on fait en gros de l'ordre du mètre de hauteur, on se déplace en mètres par seconde et on pèse quelques kilos. Donc, kilo, mètre, seconde, pour notre vie quotidienne, c'est génial. Pour des particules qui sont ultra-relativistes, c'est-à-dire qui vont à presque la vitesse de la lumière, donc 300 000 km/s, qui pèsent quelque chose, leur masse, c'est quelque chose comme 10 moins, c'est quoi le proton ? 10 moins 28 kg, enfin, c'est ridicule, ça fait beaucoup de zéros, et qui ont des énergies colossales. On a décidé de changer d'unité. Et donc, on avait besoin d'une unité. On a pris C, la vitesse de la lumière, pour faire le changement. On a pris H bar, qui caractérise les particules, en fait, le monde quantique.
Donc, la constante
monde,
de Planck.
Voilà. Donc, on a caractérisé ça par le monde relativiste, le monde quantique. Puis, il nous fallait une autre unité. On a dit, bon, on va prendre un électron sous une différence de potentiel d'un volt. Puis, en fait, on se retrouve bien nul, parce qu'un électron-volt, pour nous, maintenant, c'est pas assez du tout. Donc, maintenant, on parle de téra-électron-volt. Donc, on est à 10, 12, 10, 15, 10, machin. Donc, on a des tas de multiples de l'électron-volt. Alors, pour donner maintenant un ordre d'idée, c'est des énergies qui sont énormes. Alors, quand je veux minimiser l'énergie dans le LHC, je dis, oh, bon, non, l'énergie des protons, c'est la même qu'un moustique en plein vol. Que dalle. Oui, mais dans un volume de 1000 milliards de fois plus petit que le moustique. Donc là, ça devient déjà impressionnant. Puis alors, j'ai essayé de faire des calculs, alors j'ai trouvé d'autres trucs. C'est aussi la même chose que 90 kg de TNT ou 15 kg de chocolat ou 8 litres d'essence. Évidemment, l'énergie, c'est ça qui est magique. Ça dépend de ce qu'on en fait ou comment on la consomme, d'accord ? 15 kg de chocolat, c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Enfin, 90 kg de TNT aussi, quoi. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie, mais c'est surtout la densité d'énergie qui est importante, c'est-à-dire beaucoup d'énergie dans des tout petits volumes. Sinon, pour comparer maintenant à ce qu'est capable de faire l'univers, donc nous, on dit qu'on est à 10, 12, de l'ordre de 10, 12, 10, 13 électronvolts, nos protons dans le LHC, d'accord ? Dans les rayonnements cosmiques, c'est aussi des protons, donc qui se baladent dans le cosmos, on atteint, alors c'est rare, mais il y en a, des protons de 10 puissance 21 électronvolts, d'accord ? Donc l'univers, il est capable de faire des trucs vachement plus costauds que ce qu'on fait nous, hein.
Mais d'accord. Bon. Et alors, l'idée, c'est de faire des expériences avec cette énergie très concentrée. On fait apparaître des particules. Et c'est ces particules-là qui vous intéressent pour étudier leurs caractéristiques, etc.
Le truc, c'est que la plupart des particules du modèle standard sont instables. Alors, heureusement, l'électron, par exemple, tant mieux, lui, il est stable. On serait mal, sinon, le proton, qui n'est pas élémentaire, mais néanmoins, il est stable. Et le neutron dans le noyau, il est stable aussi, enfin, dans la plupart des noyaux. Donc tant mieux, parce qu'on est là pour en parler. Tout le reste, c'est instable. Donc c'est instable, ça veut dire que si je veux l'étudier, la particule, je fais quoi ? J'attends gentiment qu'il y en ait une qui très sympathiquement veuille bien se désintégrer sous mes yeux pour que donc instable, hein, c'est pas, elle tient pas en place, comme m'avait dit un élève de quatrième une fois, c'est sitôt créée, elle se désintègre. Si je veux l'étudier, il faut que je me débrouille pour les créer sous mon nez ou là où j'ai mis mon détecteur, d'accord, pour pouvoir les étudier. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au LHC, ce qui se passe, c'est quand on collisionne les protons, contrairement à pas mal d'idées reçues que des dessins ont véhiculé en particulier. Ce n'est pas les débris des protons qu'on regarde. On a suffisamment d'énergie dans un suffisamment petit volume pour agiter le vide et en faire sortir, donc vraiment créer des particules nouvelles. C'est-à-dire les protons ne sont plus là, ils sont désintégrés, annihilés, et il y a création vraiment de nouvelles particules. Mon boson Z préféré, mon chouchou, ou le boson de Higgs, il n'est pas préexistant dans le proton. C'est vraiment pas un débris de proton, d'accord ? Donc c'est exactement ça qu'on fait au LHC, c'est-à-dire en des endroits choisis, on crée des particules dont on sait qu'elles sont instables, d'accord, pour pouvoir les étudier. Alors évidemment, elles sont tellement instables qu'on ne les voit pas avec nos détecteurs. C'est pas elles qu'on voit, c'est leur produit de désintégration. En revanche, notre super modèle standard, il nous permet de faire des prédictions sur comment se désintègre telle ou telle particule. Et après, on compare théorie et expérience. Mais c'est vraiment un jeu de Sherlock Holmes dans le détecteur, parce que ce n'est pas la particule elle-même qu'on va voir. C'est ses produits de désintégration.
D'accord. Alors, pourquoi le détecteur Atlas est-il si gros et si compliqué pour observer des choses aussi petites ?
Alors, il y a plein de façons de répondre à cette question, mais déjà, on peut repartir à moi, pour vous voir, qui êtes de l'ordre du mètre, j'ai besoin de mon œil qui est de l'ordre du centimètre. Maintenant, si je veux regarder une poussière sur la table, j'ai besoin d'une loupe, donc c'est déjà un truc de 10 cm. Si je vais vouloir regarder plus petit encore, j'ai besoin d'un télescope, d'un microscope, donc 50 cm, microscope électronique, c'est déjà une bestiole de 2 mètres. Donc en fait, plus on veut voir petit, plus on a besoin d'un instrument grand. Et moi, c'est pas compliqué, moi je regarde ce qu'on appelle l'infiniment petit. Donc mon machin fait 40 mètres, finalement c'est raisonnable, il pourrait être infiniment grand, n'est-ce pas? Non, je rigole. Donc plus on veut voir petit, plus on a besoin de grand. Pourquoi? Parce que plus on veut voir petit, plus on a besoin d'y mettre l'énergie. Et une particule qui a beaucoup d'énergie, eh ben, elle va avoir tendance à traverser plein de matières. Et moi, il va falloir que je puisse l'arrêter pour, par exemple, mesurer son énergie pour certaines. C'est un exemple. Par exemple, les électrons dans Atlas s'arrêtent dans le calorimètre. J'aurai besoin de les voir. Donc, c'est une question d'énergie, en fait. Plus je veux voir petit, c'est une question de longueur d'onde. Plus je veux voir petit, plus j'y mets de l'énergie. Plus j'y mets de l'énergie, plus j'ai besoin d'un appareil grand, d'abord pour la fournir, l'énergie. Ça, c'est le LHC. Puis ensuite, pour la contenir. Et ça, c'est Atlas.
Alors du coup, cette énergie produit énormément de particules qui se désintègrent en elles-mêmes énormément de particules. Ça vous fait énormément de données.
Ah ça, vous n'imaginez pas. Puis alors en plus, en ce moment, là, le LHC, alors le LHC tourne par an. On démarre, je sais pas, la physique vers avril. Ça dépend, bon an, mal an, voilà, c'est autour d'avril. Et puis on tourne en proton-proton, c'est-à-dire on fait des collisions de protons jusque cette année, fin octobre. Et puis ensuite, on fait un mois où on accélère d'autres trucs, des ions. En l'occurrence, là, des atomes de plomb dont on a enlevé tous les électrons autour. Donc des ions plomb, des ions lourds. Et là, donc, le LHC vient de s'arrêter mercredi soir de faire des protons-protons. Et c'est une année totalement extraordinaire parce qu'on a enregistré... Alors, je vais donner une unité barbare. 40 inverses femtobarnes de données. Peu importe l'unité, appelez ça patate, chou-fleur, ce que vous voulez. 40 chou-fleurs de données. Sachant que pendant... tout le run précédent, donc aux énergies précédentes, 2011-2012, on avait enregistré que 25 choux-fleurs, et qu'en 2015, on avait enregistré que 3 choux-fleurs. On n'a jamais eu une production de données aussi dense dans le... J'espère que je n'ai pas trop de collègues physiciens. Alors je reviens, le choux-fleur, c'est un inverse femtobarne. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que cette année, le LHC, vraiment, ils ont mis le paquet, il y a eu des performances exceptionnelles, et on en est au point où là, on se pose des questions de comment on va traiter les données, tellement on en a. Alors on a fait un petit calcul au tout début du LHC, en admettant que je veuille enregistrer une année de production de données du LHC sur des CD ou des DVD, d'accord, de quel espace, de quelle pièce j'ai besoin pour stocker mes DVD, bah, ça ne va pas le faire, parce que même en retirant les boîtes des DVD, on se retrouve avec une pile de 20 km de haut. 20 km ! Enfin, je sais pas, le Mont Blanc, il est dans les 4 km, quoi, donc vous voyez le truc. Donc c'est des quantités de données monstrueuses, ouais.
Donc c'est pour ça, entre autres, que vous êtes si nombreux pour analyser les données. Comment vous analysez toutes ces données? Vous avez des algorithmes de traitement? Vous faites ça à plusieurs laboratoires? Comment ça se passe?
Oui, alors Atlas, c'est je l'ai dit, hein, 3700 physiciens à peu près. Dans le tas, il y a 1000 étudiants. C'est jeune, la physique. On représente 40 pays et à peu près 180 laboratoires, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, on se répartit le boulot. Alors, on se répartit le boulot sur les... Ça, je ne l'ai pas dit, mais Atlas, c'est... Pour pouvoir reconnaître toutes les particules, on a besoin d'un détecteur qui est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches là-dedans qui vont réagir différemment aux différents types de particules. Ça nous permet de les identifier, de les mesurer. Donc déjà, les gens qui travaillent, les physiciens les plus proches du détecteur, ils vont être déjà spécialistes d'un bout seulement du détecteur, qui est monstrueux déjà. Et puis après, même, on va avoir chacun... des sujets de physique différents. Par exemple, moi, je vais étudier le boson Z, et puis le bureau d'à côté, ça va être le Higgs, le W, les quark top. Il y a tout un tas de sujets de physique. Et puis même sur le boson de Higgs, il y en a qui vont étudier ce qu'on appelle son spin, qui est une propriété quantique. Il y en a qui vont étudier sa masse, etc., etc. Donc, on se répartit le boulot sur les analyses. Et chaque personne va écrire ses petits codes. Dans Atlas, il y a des millions de lignes de code, mais ces codes pour analyser les données. Alors moi, j'arrive en bout de ligne, je dis j'analyse les données. Avant, il y a tout un tas de programmes qui ont été écrits aussi, qui s'appellent les programmes de reconstruction. C'est-à-dire, ce que me sort Atlas, le géant, le détecteur géant, là, bah, c'est des coups dans l'électronique. Déjà, ça, il faut le transformer en 0 et en 1 informatique. Et puis ensuite, ces informations informatiques, il faut les transformer en objets physiques. Il faut de bip dans l'électronique, j'en arrive à là et passer un électron de telle énergie. Donc il y a pas mal de boulot. Donc il y a de quoi faire travailler 4000 physiciens, ouais.
Vous-même, comment êtes-vous arrivé dans cette recherche? Vous avez toujours été passionné par la matière, la physique des particules. Comment ça vous est venu?
Alors, mon surnom quand j'étais petite, c'était Miss Pourquoi. Donc voilà. Donc moi, je suis née en me posant des questions, et je pense que du coup, la physique des particules, c'est l'aboutissement normal, parce que à force de dire oui, mais quand même, pourquoi on finit par arriver à l'élémentaire. Donc voilà. Donc je pense que moi, je me suis jamais posé la question. Je suis curieuse de nature, et donc voilà, je pense que je suis physicienne de nature. Donc, pour moi, c'était facile. Mais après, faut connaître les métiers qu'on exerce, et ça, c'est pas évident, par contre. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la physique des particules, ne savent même pas qu'on existe, se demandent si on n'est pas des extraterrestres. Donc après, c'est en m'orientant plutôt dans des études scientifiques que j'ai rencontré des gens qui connaissaient des gens.
Et on a l'image du monde de physiciens comme d'un monde très masculin, sans doute parce qu'il y a beaucoup de techniques derrière. Est-ce que c'est pesant, ce monde très masculin? Est-ce qu'une femme trouve facilement sa place?
Alors, c'est le milieu où je trouve que justement, ça ne se sent pas du... Alors, c'est vrai que c'est un milieu très masculin. J'ai re-regardé les chiffres. Au CERN, en global, il y a 20% de femmes seulement. Et ça baisse un peu si on regarde que les physiciens. Parce qu'au CERN, il y a aussi tout un tas de gens qui travaillent pour l'administratif. Il y a plein de métiers représentés. Et si on regarde purement les physiciens, on tombe à 17,5%. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'il y a moins de femmes. Mais en revanche, dans mon métier, ce qui compte, c'est mon cerveau. Et alors, mon cerveau est asexué, donc c'est parfait. Voilà. Donc, je ne sens jamais... J'ai jamais ressenti de machisme dans ce milieu-là. En revanche, on peut aussi s'insurger contre le fait qu'il n'y ait que 20% de femmes là-dedans. Et alors là, il y a du boulot. Parce qu'il y a la société française, après je ne sais pas dans les autres pays, mais qui essentiellement véhicule le fait que les nanas ne sont pas faites pour les maths. Et encore moins pour la physique, et puis qu'elles n'ont pas le sens pratique, je ne sais pas quoi. Et il y a beaucoup d'autocensure du coup. De la part des jeunes filles, moi j'en vois plein qui me disent « Oh là là, non mais je vais rien comprendre, je suis une fille, et moi je suis quoi ?» voilà. Il y a un moment où faut travailler sur le fait que... en face de moi j'ai un robot qui agite les bras et du coup j'étais un peu perturbée, pardon. Mais donc oui, il y a du boulot à faire là-dessus. Ça n'est pas pesant qu'il n'y ait... Être une femme dans ce milieu de mecs, c'est pas pesant du tout parce qu'encore une fois, c'est être un chercheur parmi des chercheurs. Appelez-moi chercheuse si vous voulez, ça change rien. En revanche, oui, il y a du boulot à faire pour que les gens arrêtent de s'auto-censurer. Une fois, à la fête des sciences, c'était trop mignon. Il y avait donc une animation et moi, j'allais intervenir en tant que physicienne. Et juste pour rigoler, les animateurs, les battleurs qui étaient là, demandent à tout le monde, et il y avait beaucoup d'enfants, qu'est-ce que c'est un chercheur? Alors, ça a pas loupé. Alors déjà, c'est un homme, il est vieux, il a des lunettes. Alors moi, à part les lunettes, il n'y avait rien qui collait. Il a une blouse blanche et un carnet et des crayons. Ah mon Dieu, au secours! Et alors justement là, le battleur dit, bon ben voilà, en fait je vais vous en présenter un. Alors j'arrive, pas de blouse, non, à l'époque j'avais même pas mes lunettes. Le carnet et le crayon, je serais mal barré avec les pétaoctets des données d'Atlas. Heureusement que j'ai un ordi. Enfin, et ça reste, et c'était des petits qui disaient ça. Donc c'est des images d'épinal qui sont véhiculées de génération en génération. Donc, oui, il y a du travail, ouais, pour lever les tabous, ouais.
Alors justement, vous-même, vous investissez beaucoup dans la communication des sciences. Vous allez rencontrer les élèves, les lycéens, les collégiens. Comment ça se passe? Comment ça vous est venu et comment ça se passe? Vous trouvez le temps encore de faire ça?
Parfois, c'est au détriment de ma physique, ça c'est sûr. Après, il faut s'organiser. Parce que... je pense que les personnes les mieux placées pour transmettre l'enthousiasme pour la science, c'est ceux qui l'ont, l'enthousiasme pour la science, d'accord ? Donc je pense que moi, le boulot que j'ai à faire, c'est justement lever tout un tas de barrières en leur disant « Mais non, mais arrêtez, c'est ludique, c'est rigolo, moi, je m'éclate tous les jours. » Donc, pour moi, ça va avec le métier, c'est-à-dire faire une découverte dans son coin et puis voilà. Ok, bon, voilà, c'est tout. J'ai fait une découverte, super. Non, il faut la transmettre. Donc la transmission, pour moi, c'est inhérent au métier de chercheur. C'est-à-dire, on trouve quelque chose, on le transmet, comme ça, les gens vont pouvoir rebondir dessus, on va pouvoir avancer. Après, je me suis aperçue très vite qu'il y a une demande énorme de la part de ce qu'on appelle le grand public, qui veut tout et rien dire, et qu'on était là pour répondre, alors répondons, quoi. Il y a une énorme demande, et en même temps, il y a ces barrières dont on vient de parler. Donc pour moi, ça paraît évident qu'il faut le faire. Enfin, je sais pas, je le fais avec beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est intrinsèque au métier, vraiment. Je me pose pas la question.
Et je crois que vous êtes aussi lectrice de science-fiction.
Un peu, ouais.
Est-ce que ça vous influence ou est-ce que ça vous aide à réfléchir ou ça vous apporte de nouveaux questionnements? Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans le travail de recherche?
Alors, plus maintenant, mais par contre, ça a eu un effet crucial sur la formation de ce que je... Enfin, ma transformation en être adulte et donc mon moi chercheur, quoi, vraiment. Parce que j'ai dû tomber dedans, mais je suis tombée dedans. Je ne lisais plus que ça. Je sais pas, entre 8 et 15 ans, j'ai lu que de la science-fiction. Et je pense que c'est ça a vachement contribué parce que tout d'un coup, on se dit, il y a la science et l'imagination. Et si on débride les deux, les avancées sont... Ça y est, il n'y a plus de limite là. On peut se lâcher. Alors après, j'ai un peu levé le pied sur la science-fiction pour plusieurs raisons dont je ne me souviens pas forcément de toutes. Mais bah, d'abord et d'une, parce que j'étais en train de l'apprendre, la science telle qu'elle se fait. Donc j'ai levé un peu le pied sur la fiction parce que j'avais plein de trucs à apprendre déjà du concret. Enfin du concret, pas forcément, mais du qui existait déjà. Et puis donc j'étais en train de développer mon esprit critique sur de me fabriquer en tant que chercheur, et puis parce qu'il y a plein d'autres genres littéraires que j'adore, alors bon, un peu la place aux autres, mais la science-fiction, ça a été ça. Il y a plein de métiers où on nous demande pas d'exercer notre imagination. Moi, ça fait partie du truc, c'est-à-dire on peut pas être chercheur si on se contente de réitérer ce qui a déjà été fait. Il faut vraiment s'ouvrir, et donc pour moi la science-fiction, ça a été ça. Ça a été vas-y, tu peux y aller, tu penses à tout ce que tu peux, et ça ouvre tous les possibles, quoi. Ouais.
Alors cette année aux Utopiales, nous avons la chance de recevoir Francis Mas, qui est un dessinateur et créateur de l'imaginaire extraordinaire. Et quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit tout de suite, mais oui, mais je connais bien et j'ai son recueil de dessins, le modèle standard, justement. Je l'ai depuis que c'est sorti et j'adore. Alors je crois que dans les images qui défilent, vous avez la couverture du modèle standard de Francis Mas. Plus un dessin de l'intérieur. Ça vous a inspiré, ce genre de dessin?
Non, mais c'est génial parce que c'est de l'humour de... Bah, c'est pas physicien. Et il fait de l'humour de physicien, mais ça colle génialement. Par exemple, nous, les physiciens, on a des tas d'expressions dont j'ai fini par me rendre compte que c'était du jargon de physicien. Par exemple, quand je suis très énervée, je vais dire « Oh là là, je suis hors couche de masse ». Et je me suis aperçue, alors masse sans parler de masse, hein. Et tout d'un coup je me suis aperçue qu'en fait ça voulait rien dire pour les gens qui connaissaient pas la physique. Être hors couche de masse, c'est être dans un état excité. Donc si je suis dans un état excité, ok, je suis énervée, et alors on dit, bah, c'est pas grave, je vais retomber sur mon état fondamental. Ça, pour un physicien, ça veut dire, bah, c'est évident, je vais perdre cette énergie supplémentaire, et donc après je serai à nouveau calme. Mais ça, c'est de l'humour débile de physicien, c'est-à-dire qui consiste à prendre du jargon de physicien et à l'utiliser dans des situations de tous les jours. Et Mas, il fait exactement ça, là. Quand à un moment, moi, il y en a un que j'adore, c'est quand il ouvre son frigo et il dit, machin, était quand même salement désolé que la disparition, je sais plus comment c'est la disparition de la matière dans l'univers était justement concentrée dans son frigo. Moi, ça me fait hurler de rire. C'est de l'humour de physicien, quoi. Oui, d'accord, il y a de la disparition de matière et pile poil dans mon frigo, c'est pas de peau.
À mon avis, il a quand même bien potassé la physique, parce que donc dans les images que vous voyez défiler, on voit une baleine échouée sur un récif qui a rencontré une baleine d'antimatière. Donc voilà, vous verrez le résultat. La couverture, c'est un bonhomme dont le visage est très asymétrique, et en légende, il dit qu'il a subi une brutale brisure de symétrie. Alors je crois que la brisure de symétrie, ce sont des choses qui sont aussi étudiées au LHC.
Ah bah la recherche du boson de Higgs est directement liée à la recherche de l'explication. Alors là où c'est très fin de la part de Mas, c'est que lui dit, oh là là, je viens de subir une brutale brisure de symétrie, alors que nous on cherche des brisures spontanées de symétrie ou brisures de symétrie douces. Donc en plus il prend le contre-pied, c'est magique ce qu'il fait, vraiment. Mais c'est très chouette. Alors ça me fait penser à une amie à moi qui est clown et qui s'empare du vocabulaire de la physique des particules. Elle s'appelle Émilie Tracente, elle a un clown qui s'appelle Gabriel, elle a fait un spectacle qui s'appelle Ivre d'infini. Et ce qu'elle fait, c'est ça, c'est s'emparer du vocabulaire de la physique et le mettre, artistiser, quoi, en faire un objet artistique. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça rend le vocabulaire accessible, alors par le rire, que ce soit Mas ou Émilie, ça le familiarise, ça le rend accessible, ça fait rire avec... Et puis ça fait réfléchir. Et donc ce sont des médias qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas ignorer. Attraper les gens par le rire ou par la curiosité ou les intriguer pour des domaines qui de premier abord sont un petit peu compliqués. Il y a un peu de maths derrière, je vous le cache pas, donc c'est un petit peu compliqué, ouais.
On va vous laisser la parole. Je pense que vous avez des questions à poser à Nathalie Besson. Profitez-en. Alors, on ne vous voit pas bien, mais je crois qu'il y a des micros qui circulent.
Bonjour. Je remercie le CEA d'être présent. Le CEA qui assure la sécurité du pays avec certaines choses. Ah, on entend mal ?
Si.
On entend bien. Et comme j'ai une montre au tritium, j'adore tout ce qui est nucléaire. Il y a du tritium, en vrai. Les gens pourront voir la montre.
Restez là-bas.
Comment dirais-je, ma question est celle-ci. Là, votre boson de Higgs, là, est-ce qu'il y en a dans les trous noirs ? Est-ce que ça peut sortir d'un trou noir ? Est-ce qu'il avale cette information de trou noir, là ? Ce fameux boson de Higgs.
Alors, le boson de Higgs, ça a déjà été... Je vous avoue que ce n'est pas tout à fait la première fois qu'on nous l'a fait, celle-là. Le boson de Higgs, c'est une particule extraordinairement instable. Je crois que son temps de vie, c'est 10^-23 secondes. Donc, sitôt créé, sitôt... Quand je dis sitôt, dans le temps qu'il m'a fallu pour dire sitôt, il y a un sacré paquet de fois 10^-23 secondes, d'accord ? Donc, sitôt créé, sitôt désintégré.
Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit 10^-23, c'est 10^-23.
10^-23 secondes. Donc, 0,2201 seconde. 22,0, je peux me mettre là, j'écris, j'arrive à l'autre bout. Donc, c'est tout petit. Donc, le boson de Higgs, ça... Ça n'a pas beaucoup de sens de dire est-ce qu'il peut sortir, rentrer, machin, parce que c'est une particule instable. Il n'est pas suffisamment stable pour qu'on puisse le regarder se propager, se déplacer. Donc, sinon, il n'y a aucune raison qu'il ne reste pas scotché dans les trous noirs comme à peu près tout le reste, y compris la lumière. Mais ça n'a pas tant de sens que ça dans la mesure où il est trop instable pour qu'on puisse le regarder se propager. Il n'y en a pas constamment. Mais pour ça, alors... le boson de Higgs, c'est une particule très massive. Dans le modèle standard, je vais parler en gigaélectronvolts, mais comme tout à l'heure, à la place de inverse femtobarn, j'ai dit chou-fleur, là je pourrais très bien dire carotte, c'est pareil. Dans ces cas-là, prenons carotte pour le gigaélectronvolt. Le proton fait une carotte. La particule la plus lourde, la plus massive du modèle standard, c'est le quark top qui fait 175 carottes. Et le boson de Higgs, il fait 125 carottes. C'est parmi les particules, c'est la deuxième particule la plus massive du modèle standard. Pour créer une particule, enfin rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, j'invente rien. Pour créer une particule d'une certaine masse, il faut y mettre l'énergie. C'est pour ça qu'au LHC, c'est pour ça qu'il a fallu attendre le LHC pour pouvoir produire des bosons de Higgs et les observer. C'est qu'avant, on mettait tout simplement pas suffisamment d'énergie dans les collisions pour pouvoir créer une particule de 125 gigaélectronvolts ou carottes. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, c'est... Oui, peut-être, il est là, il se désintègre, mais il faut que quelque chose fasse qu'il soit là. Donc tant qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie localement dans l'univers pour le produire, il est à l'état virtuel. Il est sub-là. J'ai inventé plein de mots aujourd'hui, c'est cool. Ouais.
Le micro circule.
Oui, merci. Merci pour cet exposé. J'avais une question pour rebondir. Vous dites que le boson de Higgs, il a une tant de carottes de masse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal de se dire qu'en fin de compte, le boson de Higgs est une particule qui donne de la masse aux autres, mais il a lui-même de la masse. Alors, est-ce qu'il se donne de la masse lui-même ? Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'autoréférence un petit peu bizarre ? Et j'ai du mal à voir, en fin de compte, quel est vraiment son rôle, le fait de donner de la masse aux particules ? Quel serait un univers dans lequel, par exemple, il n'y aurait pas de boson de Higgs ? Est-ce que ça voudrait dire que les particules sont toutes, sont sans masse, donc ? Et s'ils sont sans masse, normalement, ils vont toutes à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que d'un seul coup, du jour au lendemain, ils ont ralenti. Enfin, ça me pose énormément de problèmes. Plus j'y pense, moins je comprends. Et voilà, c'est mes questions.
Alors, pour la fin de votre question, oui, l'univers sans boson de Higgs serait totalement différent. Donc, on est vachement content qu'il soit là et qu'il ait une masse de 125 GeV. Il est pile poil là pour bien asseoir les fondations du modèle à une bonne masse. Alors, oui, il a des caractéristiques mathématiques extraordinairement différentes de toutes les autres particules. Mais non, ce n'est pas lui qui donne sa masse aux particules, c'est le champ de Higgs. Alors, un champ, à chaque fois, je fais fuir la moitié de la salle quand je dis ça. Donc, je vais rassurer tout le monde. Un champ, c'est quelque chose de très simple que aucun prof de physique ne prend la peine de définir. Et c'est bien dommage, parce qu'après, ça fiche la trouille pendant tout le reste de nos études. Donc, un champ, c'est quelque chose qui est défini tout le temps partout. C'est quand même pas compliqué comme définition. Alors, par exemple, un champ scalaire, là, je commence avec le vocabulaire qui fait fuir, c'est un champ qui est défini tout le temps partout par des nombres, juste un nombre. Et exemple trivial, le champ de température dans cette pièce. En chaque point mathématique de cette pièce, je peux définir la température, je lui donne une valeur, elle a juste un nombre. Ça, c'est un champ scalaire. Le champ de X, c'est un champ scalaire. Après, il y a des champs vecteurs ou des champs vectoriels. Et ça, c'est en chaque point de l'univers, le champ est défini par une valeur et une direction. Il y a un vecteur, il y a une petite flèche. Par exemple, la vitesse de l'air dans cette pièce, c'est un champ vectoriel. En chaque point, je peux définir la vitesse de l'air et je la définis par une valeur et une direction. Ça va par là, par là, par là. Donc voilà. Donc maintenant, dans l'univers des champs, il y en a d'autres. Là, c'est des trucs que tout le monde peut comprendre. Maintenant, je vous assomme, l'électron, c'est un champ spinoriel et pan, on perd tout le monde. Peu importe. Ça veut dire qu'il y a différentes caractéristiques mathématiques qui décrivent tous les champs de l'univers. Donc l'univers, c'est le champ du photon, le champ du Z, le champ du X, tout ça, tous ces champs mélangés. Et tous ces champs, c'est quoi? C'est les particules, ou alors au contraire, qu'est-ce qu'une particule? C'est une manifestation locale du champ. Par exemple, si je colle 511 kiloélectronvolts localement dans le champ de l'électron, j'ai un électron. Si je colle 125 gigaélectronvolts localement dans le champ du Higgs, j'ai suffisamment d'énergie pour faire un boson de Higgs. D'accord? Alors je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça, c'était quoi la question à la base? Ah oui, et donc le champ de Higgs, c'est un champ dans lequel baignent tous les autres, et c'est en interagissant avec ce champ que les particules attirent une masse. On pourrait très bien ne pas avoir de boson de Higgs. Il y avait des modèles, comme on ne le voyait pas, il y avait des modèles que maintenant on considère comme tordus, qui ont été développés exprès pour dire ce dont on a besoin, vraiment, c'est le champ. Les particules, elles se... De la même façon... Alors après, il y a des analogies qui sont prises que moi, j'aime pas trop parce qu'elles sont... Enfin, une analogie, c'est toujours très limité, mais on peut imaginer le champ de Higgs comme une grosse piscine de mélasse, d'accord ? Et les petites particules vachement agiles, vachement légères, toutes maigrichonnes, elles passent là-dedans. Elles sont un peu freinées, mais pas beaucoup. Le photon, lui, c'est l'homme invisible. Il passe, il n'a rien vu. Et puis, au contraire, le quark top, par exemple, qui est la plus massive de toutes les particules élémentaires, lui, c'est un patapouf. Il est vachement freiné dans le champ de mélasse. Donc, c'est vraiment l'interaction entre les particules et le champ de Higgs qui donne leur masse aux particules, plus que l'interaction avec le boson de Higgs, qui a ce statut particulier parce qu'il est scalaire. Voilà, c'est un peu mathématiquement, c'est un petit poil compliqué de rentrer dans les détails, donc j'espère que j'ai répondu un peu à votre question, comme j'ai pu. Un peu, on en reparlera après.
Il y a encore une question là devant.
Bonjour, je suis à peu près au milieu, par ici.
Ah, merci.
Vous rappeliez qu'avant, on pensait que c'était l'atome qui était la définition de tout, et après, on décompose et on se rend compte à chaque fois que les particules aussi ont commencé à voir, commencé à l'intérieur. Ça paraît un peu vertigineux, en fait. On a l'impression que c'est une question sans fin, et je voulais savoir comment on fait en tant que physicien pour ne pas devenir fou ou dépressif à force de se dire qu'il n'y aura jamais de réponse à la question la plus fondamentale.
Elle n'a pas l'air dépressive.
Non, je veux savoir comment.
En fait, c'est pile poil le truc qui nous tient debout. Ce serait sinistre à hurler si on avait tout compris. Nous, ce qui nous fait tenir debout, c'est qu'il reste toujours des trucs à découvrir. Alors, le truc, c'est qu'on travaille avec des modèles. Il ne faut jamais oublier ce que c'est qu'un modèle. Un modèle, c'est quelque chose qui reflète du mieux de ce qu'on a compris notre objet d'étude, mais il reste avec un domaine d'application, on va dire, ou du moins de validité qui est bien défini. Donc là, moi, je travaille avec le modèle standard. Le modèle standard, il reste avec ses particules élémentaires. Il y a des théoriciens qui spéculent sur des modèles où, par exemple, les quarks seraient composites. Ce ne seraient pas les particules élémentaires. Pour l'instant, ça ne colle pas avec l'observation expérimentale. Donc, la validité d'un modèle, c'est quoi, hein? C'est le juge de paix, c'est l'expérience. Si ça colle avec l'expérience, les prédictions théoriques, ok, t'es bon. Si ça ne colle pas, t'es pas bon. Donc là, pour l'instant, les modèles composites, on appelle ça les modèles composites, ne collent pas avec les résultats expérimentaux. Mais rien ne nous dit que si on monte très fort en énergie ou si, je ne sais pas, on regarde ça avec en changeant de paradigme, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'histoire de la physique, on va pas tomber sur autre chose. C'est tout ce que je peux dire sur ça, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment sur les modèles. Et puis, il y a toujours des choses à découvrir. Là, par exemple, mon modèle standard que j'adore, disons le mot quand même, qui est super. Et pourquoi je l'adore? Parce que depuis des dizaines d'années, toutes les prédictions théoriques qui sont faites avec ce modèle collent aux résultats expérimentaux, mais avec vraiment une précision redoutable. Donc ce machin, on sait que c'est qu'un modèle, mais quand même, il doit tangenter quelque part la réalité, il doit tangenter quelque part la réalité, parce qu'il est vraiment redoutablement en accord avec l'expérimentation. Néanmoins, cette chose géniale n'explique que 4% de l'énergie de l'univers. et je frime là sur scène, 4% c'est quand même pas baiser. Il y a aussi ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire, on n'a aucune idée de ce que c'est, de quelle chose c'est, ça se trouve c'est même pas des particules la matière noire. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir qui sont pas dans le modèle standard et on s'en occupe aussi. Non, au contraire, c'est génial d'avoir des choses à chercher.
Et le LHC pourra répondre sur ces questions d'énergie noire et de matière noire ?
Alors, d'énergie noire, là, je ne suis pas pertinente, donc je vais la boucler, ça m'évitera de dire des bêtises. En revanche, sur la matière noire, ça dépend. Pardon. Si la matière noire est une... La matière noire pourrait être une particule non encore découverte. Et donc là, oui, on cherche au LHC. Oui, si c'est sous forme de particules, elle pourrait même apparaître soit sous forme de particules, soit sous forme d'absence de quelque chose dans les détecteurs. On dirait, ah tiens, il y a un truc qui n'interagit pas comme les autres, qu'on ne détecte pas, mais ça manque dans nos bilans d'énergie. Donc oui, on les cherche. On cherche effectivement au-delà de d'autres modèles standards pour pouvoir expliquer la matière noire, entre autres.
On va prendre une dernière question et ensuite on laisse la place à la table ronde suivante.
Alors, ma question, en fait, ça recoupe justement avec ce que vous disiez juste avant, comme quoi votre modèle standard, toute la théorie, justement, colle parfaitement avec tous les résultats qu'on a obtenus toutes ces dernières années, ce qui, effectivement, est assez extraordinaire. Bravo, d'ailleurs, pour le prix Nobel. Mais est-ce que, d'un côté, en tant que scientifique, ça ne vous ennuie pas un peu que tous ces résultats soient parfaitement en accord avec la théorie, au lieu d'avoir cette petite différence qui ferait tout ce questionnement en plus encore ?
Pile poil. Alors, c'est génialissime de découvrir le boson de Higgs. C'est génialissime de s'apercevoir qu'une construction mentale, humaine, mathématique, qu'on construit depuis des dizaines d'années, je veux dire, le boson de Higgs, il a été postulé en 64. Et paf, ça marche, ça colle, ça s'imbrique. C'est... Quelque part, on se dit, waouh, l'être humain avec son tout petit cerveau, il est capable d'aller voir l'infiniment petit et de comprendre quelque chose et de modéliser ça et d'une certaine façon d'avoir raison. Et en même temps, c'est total déprimant parce qu'on se dit, bah d'accord. Et bang, encore une fois, il marche. Alors moi, mon boulot, c'est pas de chercher les nouvelles particules au-delà du modèle standard. C'est justement dans le petit quelque chose dont vous parliez. Parce que moi, je fais des mesures de précision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour l'instant, dans les barres d'erreur qu'on a, la prédiction théorique et les prédictions expérimentales collent. Très bien. Réduisons les barres d'erreur pour voir si par hasard il n'y a pas des écarts qui apparaissent entre prédiction théorique et observation expérimentale, auquel cas ça ne nous dira pas la nouvelle physique elle est là parce que c'est cette nouvelle particule, mais la nouvelle physique elle se cache dans cette direction parce que là il y a une tension, une incohérence qui apparaît dans le modèle standard. Donc moi je prends on est plein de physiciens à faire ça, à prendre le problème, pas à chercher des nouvelles choses, qui serait donc maintenant hors modèle standard, puisqu'on a déjà trouvé ce que prédit comme, en termes de particules le modèle standard, mais à chercher des décalages entre prédiction et observation au sein du modèle standard pour voir où sont les failles et justement vers où il faut regarder pour trouver la nouvelle physique. Donc oui, moi aussi, je cherche la petite bête, bien sûr.
Merci.
Bien, mais alors vous avez encore plein de beaux travail à faire et de belles découvertes et de belles passions. Merci beaucoup, Nathalie Besson, d'avoir passé cette heure avec nous. Merci.